peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme. Jean-Yves, c'est qui ?
Ben, le cheval, bien sûr.
Le cheval, bien sûr. Tout le monde est d'accord autour de la table ?
Complètement.
Absolument.
Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Donc alors aujourd'hui, autour de la table, Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Jean-Claude.
Bonjour à tous.
Et Karine.
Bonjour à tous.
Voilà, Karine qui a le bonheur d'avoir un joli petit frison qui saute les clôtures pour aller voir les copains.
C'est ça.
Alors, en selle pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes.
C'est parti.
Alors, on va un petit peu parler, au fond, des caractéristiques qui peuvent être bonnes, donc des qualités, des défauts physiques et psychologiques du cheval. Alors, on le sait, utilisé par l'homme depuis des millénaires, le cheval a fini par se constituer un véritable dictionnaire de mots et d'expressions censés décrire ses caractéristiques, donc tant physiques que psychologiques. Et ce sont des mots et des expressions souvent imagées, parfois même un peu ésotériques, qui déroutent généralement le néophyte. C'est vrai que...
Ben oui, bon, alors les voitures qui nous empoisonnent ont emprunté pas mal de choses, et pas mal de mots aux chevaux.
Oui, Jean-Yves adore les voitures, ça c'est vrai, ah, on ça, peut le dire. Ouais. Le cheval vapeur, c'est le seul cheval que tu aimes
mais
pas, je crois.
C'est un inconvénient en ce moment. Hein.
Ouais. Alors, le messager du cheval va donc prendre un cheval imaginaire. On le prend imaginaire hein, et lui coller sur le dos, une fois n'est pas coutume, l'ensemble de ce vocabulaire hippologique pour transformer ce pauvre animal en un véritable monstre. Voilà, on va prendre un cheval, comme ça, et on va en faire un monstre. Nos auditeurs se rassurent, si nous savons tous que le cheval parfait n'existe pas, nous savons également que l'animal chimérique que nous allons évoquer aujourd'hui n'est pas prêt de naître, et c'est quand même heureux. De toute façon, pour chacune et chacun d'entre nous, le cheval le plus beau est bien évidemment lequel, Karine ?
Le sien.
Le sien. Bien, hein.
Oui, c'est passionnel.
Bien sûr, bien sûr. Alors Jean-Yves, on va te mettre un peu sur le grill. Là, on est 3-1 et on va te mettre un petit peu sur le grill.
Oula, je sais pas si je vais être à la hauteur.
Mais si. Alors, on classe les allures du cheval en 3 catégories différentes. Alors, les allures naturelles, irrégulières et enfin artificielles.
Ouais.
D'accord. Alors, on va commencer par les allures dites naturelles. Alors, ce sont lesquelles, Jean-Yves?
Eh ben, le pas, le trot et le galop.
Le pas, le trot et le galop. Tout le monde est d'accord, toujours?
Oui.
Là,
toujours.
Voilà. OK.
Moi, je suis Jean-Yves, hein, sur ce coup-là.
Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la dynamique du pas? Par exemple, puisque tu
Le pas, c'est une allure marchée. Comme le nom l'indique, à 4 temps. Voilà. Postérieur droit, postérieur gauche, antérieur gauche.
Diagonalisé, donc.
Non, pas diagonalisé.
Non.
Non, c'est séparé.
Séparé.
Voilà,
séparé.
À 4 temps,
absolument,
séparé.
Ouais. Ah oui.
Voilà. Alors, le trot.
C'est une allure sautée. Ça saute dans le trot, ça bouge. Donc c'est une allure sautée à 2 temps. Le cheval se déplace par diagonale. Diagonale droit, diagonale gauche.
Diagonale.
Le diagonale droit, c'est l'antérieur droit et le postérieur gauche qui marchent en même temps. Le diagonale gauche, c'est l'antérieur gauche et le postérieur droit.
Alors sur voilà. Le sable de la carrière, on voit combien de pistes au trot?
Eh bien, on voit 2 pistes.
2 pistes, c'est voilà. Ça. D'accord.
Mais par contre, ce qu'il faut, c'est apprendre à bien trotter. Parce que quand on trotte mal... Quand on trotte sur le trousquin et on tape sur le rein de son cheval, on l'abîme. Alors apprendre à monter à cheval, c'est apprendre à respecter son cheval dans sa morphologie, dans ce qu'il est et dans ses allures. Voilà pourquoi si j'étais moi quelqu'un d'important dans le monde de l'équitation, j'obligerais un peu les gens à apprendre à monter à cheval.
D'accord, voilà. Mais écoute, quand même, tu le fais pas mal. Alors la troisième allure naturelle, c'est le galop.
Le galop.
Voilà.
Allure sautée aussi, ça saute. Avec un temps de suspension où le cheval est en l'air, aucun membre ne touche. Donc c'est postérieur pour le galop à droite, c'est postérieur droit, antérieur, postérieur gauche, antérieur droit, après diagonale droit, et il se reçoit sur l'antérieur droit.
D'accord. Voilà. Alors combien de pistes?
Ah ben là, il y a 3 pistes.
Il y a 3 pistes, c'est bien cela, d'accord.
Oui.
Eh ben écoute, voilà. Donc
et puis un temps de suspension, et ça recommence.
Et le temps de suspension qu'on a...
Diagonale gauche, postérieur gauche, diagonale droit... Antérieur gauche, voilà.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le galop, c'est le cinéma, la photo et le cinéma qui ont permis de faire comprendre aux cavaliers que dans le galop, le cheval a un moment, un temps très court,
il est
en suspension, en l'air. Voilà. Et ça n'avait jamais été vu avant.
Voilà pourquoi on demande à un cheval de changer de pied en l'air.
Et
c'est le changement de pied en l'air.
Alors maintenant, on va parler des allures dites irrégulières. Irrégulières, et on va commencer par l'amble.
Oui. L'amble, c'est quand un cheval est fatigué, quand il a beaucoup trotté, par exemple, les trotteurs, on met à l'envers, parce qu'on leur met des filets releveurs et on leur creuse le dos de manière à ce qu'ils partent pas au galop. Donc c'est une allure artificielle. Et ils prennent mal aux reins et puis après, ils font l'amble.
Donc, voilà, c'est ça. Et le cheval a toujours deux pieds.
Latéralise à ce moment-là.
Il latéralise, oui.
D'accord.
Alors après l'allure de l'amble, il y a un autre amble qui s'appelle l'amble rompu. Alors qu'est-ce que c'est que cet amble rompu ?
Ben c'est un amble qui n'est pas harmonieux, qui est cassé, qui est irrégulier, qui n'est pas comme l'allure normale de l'amble, qui est une allure économique. Parce qu'autrefois, on mettait tous les chevaux à l'amble. Les curés, les évêques, les papes, les gens un peu âgés. Vous prenez un cheval qui humbleur, un cheval qui humble, parce que c'est une allure économique, on peut aller très très loin, et c'est très souple.
Oui, c'est ça, c'est une allure à quatre temps, en fait, dans laquelle les deux pieds du bipède latéral se lèvent successivement.
Voilà. Un peu comme les girafes.
Voilà, et le postérieur, un peu avant l'antérieur, bien évidemment. Et alors, c'est une allure quand même très économique, puisque là, j'ai pris cet exemple dans un manuel de cavalerie de la fin du 18e, du 19e siècle, et les cavaliers d'Afrique du Nord dressaient leurs chevaux barbe à l'amble rompu, ce qui leur permettait d'avancer à environ 10 km/h, ce qui est quand même pas mal, donc de façon régulière, et de parcourir entre 100 et 120 km dans la journée. Et c'était pas de la bonne plaine normande, hein. C'était généralement un petit peu montagneux, un petit peu garrigue, enfin voilà. Et l'avantage aussi, Jean-Yves, c'est que c'est une allure pour le cavalier extrêmement confortable.
Très souple, voilà. Au contraire du trotteur qui lui a une épaule droite et qui secoue bien son cavalier, et puis il faut pas avoir de maladie cardiaque.
Alors c'est pour ça qu'on mettait les dames, Jean-Yves, c'est pour ça qu'on mettait les dames et les curés sur des chevaux en bleu.
Absolument.
Qu'en pensez-vous ?
Oui, tout à fait, les dames.
Absolument.
D'accord. Alors, il y en a une autre, donc toujours ce qu'on appelait des allures irrégulières, hein, dans la nomenclature officielle de la cavalerie, de l'armée, le pas relevé, qu'on appelait aussi le haut pas ou l'entrepas.
Ben oui.
Une idée.
Ben là, c'est le pas relevé, c'est un pas avec élévation, extension et soutien. À l'encontre du pas espagnol, où le cheval monte trop les antérieures et jette ses membres en avant, il n'engage plus ses postérieurs, c'est une allure défectueuse, alors que le pas avec élévation, extension et soutien, le cheval engage ses postérieurs, reste dans les quatre temps du pas et fait un pas compté.
Exactement. Ah, c'est le pas compté alors.
Le pas compté.
D'accord.
Oui, c'est le pas compté.
C'est
intermédiaire
entre le pas compté parce que c'est un peu plus relevé quand même que le pas compté.
Alors en fait, il a effectivement, il exécute le pas relevé à quatre temps également espacés, donc avec le même tempo, et ses membres évidemment se meuvent en diagonale, bien sûr, comme dans le pas ordinaire, mais à ceci près que le cheval n'est pas supporté plus longtemps par le bipède diagonal que par le bipède latéral. C'est-à-dire que bon, il y a une sorte de quelque chose d'un petit peu plus coulant que le pas normal, quelque chose d'un petit peu plus coulant.
Mais Michel, j'aimerais quand même avant de continuer notre émission, nous présenter notre invité d'honneur.
Quand même. Jean-Yves. Ouais. Alors voilà justement un invité qui vient de nous tomber du ciel et nous, le messager du cheval, on en est ravis.
Mais on va laisser se présenter tout seul.
Jacques Tamalet, je suis un ancien élève de Jean-Yves, mais il y a quelques années quand même. Ça fait près de 40 ans, un peu plus même de 40 ans. Et puis, j'ai progressé dans le monde de l'équitation pour être entraîneur sur la discipline de l'attelage pendant
directeur technique national
23 ans, et puis maintenant détaché à l'IFCE, c'est-à-dire l'assemblage des haras nationaux et de l'école nationale d'équitation.
Mais j'aimerais, monsieur le directeur, que vous me donniez un peu plus de détails sur ce que c'est que l'Institut national du cheval. Je pense que ça pourrait intéresser les auditeurs.
L'IFCE, c'est l'assemblage entre les deux établissements publics qui sont l'école nationale d'équitation, dirigé par le cadre noir donc de Saumur, qui est attaché directement au ministère de Jeunesse et Sport, et les haras nationaux. On a fusionné les deux établissements publics qui, eux, dépendaient du ministère de l'Agriculture. Alors, c'est un petit peu compliqué, ça date de 2010, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un peu la restructuration et puis le renouveau, on va dire, des haras nationaux dans une discipline un petit peu particulière, puisqu'ils vont plus faire du tout d'étalonnage. Par contre, ils vont s'occuper de tout ce qui est équitation et essayer d'apporter l'aide qu'ils pourront aux privés et aux gens de chaque secteur.
Donc, au fond, quand effectivement, c'est quand même une mutation qui est importante et assez fondamentale.
Alors c'est très fondamental dans les haras nationaux, puisque ne plus faire d'étalonnage, c'est plusieurs centaines d'années qui vont s'arrêter, puisque Les haras nationaux datent de Colbert, enfin, un petit peu avant, mais bon.
Oui, avec beaucoup de vicissitudes, ils ont disparu, certains rois les ont supprimés, voilà. D'autres les ont remis. La Révolution française a commencé par les supprimer, Napoléon les a remis, a recréé
beaucoup de dépôts. Et donc, maintenant, effectivement, c'est une nouvelle page qui se tourne, après avoir progresser dans l'étalonnage, puisque je pense que si actuellement il y a des transports de paillettes et des transports de sperme frais, c'est un petit peu les haras nationaux qui en sont l'origine. Et donc maintenant, on part dans une nouvelle voie, alors en développant des activités dans tous les sites. C'est quand même un patrimoine extraordinaire. Les haras nationaux, pour parler de la discipline attelage, qui est celle que je connais le mieux, c'est quand même 350 voitures hippomobiles dans 52 monuments historiques. Et puis, un savoir-faire quand même qui existait parmi les haras nationaux, même s'ils ont un petit peu lâché le pied depuis 2005, il y avait un savoir-faire dans la discipline de l'attelage qui existait, plein de harnais qui existent, des bâtiments qui sont effectivement des monuments souvent. Et donc des emplacements qui sont généralement en ville, donc qui vont être bien situés pour pouvoir intéresser le public et le grand public à l'équitation. Voilà, on est sur la voie.
Il faut quand même noter que les haras nationaux ont fait une prestation formidable au niveau de l'attelage à Avignon, qui a fait l'unanimité sur tout le public à chaque représentation, alors que c'était, il faut le dire, pas vraiment le cas les années précédentes, où à chaque fois c'était un petit peu une redite de l'année d'avant, et que cette année ils ont fait mais un bond en avant où ça a été le numéro d'exception, c'était les haras nationaux.
Oui, je crois qu'effectivement il y a un renouveau dans la discipline de l'attelage. On essaye de remettre en place des écoles d'attelage et des écoles de formateurs d'enseignants attelage. Il y en a une à Uzès, une au Haras du Pin, et donc on s'est appuyé beaucoup sur les écoles d'attelage. Il y avait celle en particulier, celle de Rodez qui va se développer. Je suis là pour ça, pour faire la visite demain. Celle d'Uzès, celle de d'Annecy. Celle de Besançon et Villeneuve-sur-Lot qui était présent sur le site. Et effectivement, on a montré un petit peu tout le panel. C'est-à-dire qu'on a montré des voitures anciennes, un peu de toutes les catégories, plutôt que de montrer traditionnellement les breaks de chasse ou les squelettes. On a montré un petit peu toutes les catégories. Et puis, on a montré l'attelage sportif. Puisque là, les haras nationaux, dans l'aide au sport de haut niveau, hébergent sur plusieurs sites des athlètes de haut niveau qui sont en préparation pour les Jeux mondiaux de 2014.
Notamment à Tarbes.
Alors, en particulier à Tarbes, mais aussi à Uzès, mais aussi à Compiègne. Et aussi à Lignières qui dépend de Blois.
Oui, tout à fait. Et notamment aussi, il y avait un poney aussi.
Alors, il y avait un poney. Le poney vient de Besançon. Et il est sur l'école d'attelage de Besançon.
D'accord.
Merci Jacques Tamalet pour toutes ces explications extraordinaires. Moi, j'ai beaucoup appris, parce que je ne connaissais pas tout ça. Merci d'avoir accepté de faire le spontanaire. Parce que le spontanaire, c'est celui qui saute dans les arènes et qui prend la corrida en cours de route. Oui, là, c'était un peu ça.
Et généralement, il est à la fois en face de lui, il a le taureau, et derrière lui, la guardia civile. Donc, les spontanaires, il faut être courageux.
Avec Jean-Yves, on est très vite dans la tauromachie.
Soit on se fait encorner, soit on se fait matraquer, soit les deux.
Mais moi, je pense que la vie est un combat.
Mais ici, il y a 4 taureaux, mais il n'y a pas de guardia civile.
Voilà. Pour en revenir aux haras aussi, les haras organisent, et puis, Karine, bien sûr, et Jean-Claude pourront le dire, organisent des spectacles équestres.
Alors, pratiquement dans tous les sites, oui, depuis un certain temps, beaucoup de sites ont des spectacles équestres.
Vous-même, vous êtes en résidence au Haras de Rodez.
Oui, c'est ça.
Oui, nous, on est en résidence artistique à Rodez, donc on va se voir demain.
On va se voir demain, sans aucun problème.
Avec plaisir.
Et puis...
Et donc, c'est une politique
C'est une politique, puisque les établissements, les sites sur lesquels sont implantés les haras nationaux sont des sites classés et souvent monuments historiques. Donc, effectivement, à Rodez, à Tarbes, à Uzès, c'est pas le cas, mais par exemple, à Uzès, c'est Lucien Grus qui est là.
Oui, c'est cela,
et
oui.
Qui accueille... y compris de la formation sur le travail du cirque.
Oui. Avignon, c'est Maurice, et maintenant c'est Fabien Gall aussi, qui sont très très investis à Avignon.
Ils sont investis à Avignon, ils sont investis sur le site de Tarbes aussi.
De Tarbes aussi,
ils
également.
Ils étaient. Plus cette année.
Mais alors, qu'est-ce que ça va devenir après, par la suite?
Qui, moi?
Mais non, pas.
Est-ce qu'on peut avoir un scoop? Parce que nous, en tant qu'artistes résidents, On est très passionné par les haras nationaux, ce qu'on connaissait très peu d'ailleurs. Et du coup, faisant du spectacle dans les haras nationaux, on trouve que c'est un outil formidable et complètement exceptionnel, qui est hors du commun, qui n'existe peut-être nulle part ailleurs. Et en tous les cas, le public à chaque fois, enfin en tous les cas à Rodez, on fait un, ce qu'on appelle un carton plein. C'est-à-dire que tous les soirs, c'est 300 personnes, c'est bondé, et le public adore. Et l'endroit est tellement magnifique, il y a un potentiel extraordinaire à utiliser quand même.
À peu près tous les sites sont, sont dans ce cas. Ouais, moi, j'ai vu la, même La Roche-sur-Yon, qui n'est pas un site extraordinaire, puisque les bâtiments datent de Napoléon. Il y a du monde à tous les spectacles. Les Jeudis du Pain, c'est bourré à chaque fois.
Pareil, effectivement.
Donc, effectivement, je crois que le public est en attente de cette communication avec le cheval. Et le fait d'avoir accueilli des artistes en résidence sur chaque site est un plus pour les arts nationaux, je pense.
Est-ce que vous n'avez pas peur que des professionnels trouvent à redire, justement, parce que ce sont des locaux collectifs, ce sont des un peu des arts tournent encore avec des fonds...
Il y a de moins en moins d'argent public dans, dans les arts nationaux. C'est un établissement public et il doit se rentabiliser.
Il y a quelques professionnels qui bougent un peu, quand même, et qui...
Plus sur le... sur de la formation, mais alors sur tout ce qui est formation, équitation, c'est un accord entre la fédération et les haras nationaux sur chaque site. On n'interviendra jamais contre l'avis d'un président de Creux ou d'une chose comme ça. Pour la partie artistique, ça, je la connais un petit peu moins.
Mais nous, on découvre, hein, donc on ne sait pas trop. On a un projet qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on a créé une compagnie de spectacle équestre, et avec Rodez, on a décidé de faire un spectacle qui va se tourner sur entre 7 et 10 arts nationaux. Donc c'est une vraie pièce de théâtre d'August Strindberg qui s'appelle Mademoiselle Julie, et dont il y aura des chevaux dedans. Hein, au départ, il n'y a pas de chevaux dans la pièce, mais voilà, la mise en scène fait en sorte qu'il y a des chevaux. Et donc, on va avoir ça en mai-juin, voilà, sur
à Rodez.
Mais je pense que
la
ça
création
peut...
à Rodez et on tourne après. Et
ensuite, je pense que ça peut être une idée, effectivement, aussi, de faire tourner les artistes résidents pour pouvoir changer de spectacle dans chaque site. Parce que le seul réel spectacle préparé par les haras, c'est celui du Haras du Pin. Tout le reste, ce sont des artistes en résidence.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, d'accord. Et le Haras du Pin, comment il fonctionne alors ?
Le Haras du Pin, c'est un agent des haras qui organise le spectacle et qui mène le spectacle tous les jeudis.
Ah d'accord, ok.
Et qu'est-ce qu'il présente au spectacle alors ?
Oh, il présente des numéros. Non, il présente un petit peu de haute école en Lograin, il présente de quelques Amazones, il présente le panel des haras nationaux en gros, entre depuis le Percheron, puisque c'est le territoire du Percheron, jusqu'au pur sang arabe, donc c'est une présentation de tous les chevaux, toutes les races de chevaux.
D'accord.
Eh bien, merci Jacques pour tous ces renseignements. Je pense que ça a dû intéresser tous les auditeurs.
Ah ben oui, et leur donner envie, partout où ils sont, effectivement, de franchir les portes des haras en France et de se tenir au courant de tout ce qui est présenté, à la fois donc le spectacle, si j'ai bien compris, le spectacle fait par les cavaliers, les atteleurs, les meneurs des haras, et aussi des gens comme Karine, comme toi, comme Gilliane, qui, en résidence, présentent leur spectacle. En résidence ou pas, mais enfin présentent leur spectacle. Et ça, c'est vrai que je vois à Rodez, tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Claude, les gens se précipitent en foule. Donc il y a vraiment un engouement, il y a vraiment une envie, et ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment
Rodez a toujours été en avant, surtout face à l'équitation.
Tu veux dire quelque chose, Karine?
Oui, je disais, moi, j'ai découvert les haras nationaux il n'y a pas très longtemps, de l'intérieur, et je pense qu'il faut vraiment donner la possibilité aux gens de connaître, parce que de l'extérieur, on s'imagine que c'est un endroit fermé. On a envie de connaître, mais on pense qu'on ne peut pas rentrer. Non, mais les haras nationaux, oui, en règle générale.
Oui, c'était une chartreuse à Rodez.
C'est dit anciennement.
Oui. Celui de Rodez, c'était une chartreuse, oui. Mais c'est vrai que pour toi, Jean-Yves, aussi, là où le cheval travaille et s'exhibe, pour toi, c'est comme dans une sorte d'église, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut quand même un peu de recueillement, de silence, surtout. De silence, c'est important. Karine, oui.
Voilà, donc je disais que les gens ont envie de connaître. Enfin, moi, particulièrement, j'avais envie de rentrer, mais pour moi, c'était vraiment fermé au public. Et donc pas possibilité de connaître. Et si on leur donne la possibilité de venir, je pense qu'ils viendront.
Oui.
Parce que les gens aiment les chevaux, hein, vraiment.
Ah, tout à fait. On est effectivement dans une période où l'équitation est à le vent dans les voiles. Hein. Ça...
Oui, on est à plus de 650 000 licenciés à la Fédération.
650 000 licenciés et 85% ce sont des filles. Hein.
85% de sexe féminin de et sexe plutôt, féminin. Plutôt jeune âge.
Et plutôt jeune âge, voilà. Donc on le dit, comment on dire... le redit dans cette petite émission. Bravo, bravo, bravo les filles.
Ça l'a toujours été.
Mais
hein.
Les mecs, réveillez-vous un peu quand même.
Troisième fédération française, non?
En nombre de licenciés, oui.
Oui, c'est important quand même. Hein. Ouais.
C'est important, puis il faut quand même savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui pratiquent l'équitation et qui ne sont pas licenciées à la fédération.
Et qui ne sont pas dans les statistiques.
Et qui ne sont pas du tout dans les statistiques.
Cavaliers indépendants qui ont le cheval dans un clos à côté de la maison.
Tous les sondages mettent à peu près 10% de la population qui est montée à cheval un jour.
Mais moi je vais profiter de la venue de M. Jacques Tamalé pour faire une invitation officielle devant tous les auditeurs. J'espère que l'Institut National du Cheval, représenté par M. Jacques Tamalé, sera présent à la route du sel 2013, qui se renonce très bien.
C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour raconter cette histoire, l'histoire de cette incroyable alliance nouveau cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui encore, Jean-Yves.
Non pour s'en servir, mais pour le servir, ça c'est important.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des podcasts sur le site cfmradio.com. à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles.
À la semaine prochaine et un grand bravo à tous nos chevaux.
Merci Karine. Ciao, ciao.
Chevaliers, ayant des fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Et ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en toi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver.
Entrez dans la légende de la route du sel.